Bonjour à toutes et à tous. On va commencer ce nouveau séminaire de sociologie en remerciant Claude Didry de sa venue aujourd'hui à Caen pour nous parler de son dernier livre, L'institution du travail, et puis d'un ensemble de recherches et de réflexions sur ces questions de droit et d'histoire et de réalité contemporaine du travail. Alors, en quelques mots, Claude Didry est historien et sociologue, directeur de recherche au CNRS, au Centre Maurice Alvax, après avoir été pendant un certain temps à l'IDHES, c'est-à-dire l'Institution et dynamique historique de l'économie et de la société, qui est un des laboratoires de l'ENS Cachan.
Voilà, et donc, notamment, parce qu'il y a aussi
entre
à la Sorbonne.
Autres, il y a eu d'autres.
C'est un labo qui rayonne sur toute la région parisienne, en fait.
D'accord.
Avec des historiens, des sociologues et des juristes.
Voilà. D'accord. Et un labo dont tu as été directeur pendant 4 ans, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Voilà. Donc, Claude Didry est auteur de nombreuses publications, entre autres quelques livres, « Naissance de la convention collective, débat juridique et du social en France au début du XXe siècle », ça c'était en 2002, avec Arnaud Mias, « Le moment de l'or, les syndicats au cœur de l'Europe sociale » en 2005, et puis la direction de nombreux ouvrages, la coordination de nombreux dossiers de revues. On peut signaler un article avec... un ouvrage dirigé avec Annette Jobert, « Les restructurations industrielles entre politique, droit et relations professionnelles » au PUR en 2010. Un certain nombre de travaux avec Pierre Boisard et Dima Younes. Les travailleurs de l'innovation, de l'entrepreneur au salarié, au PUR également en 2016, pour les plus récents. Je signale aussi un travail avec Monique Selim, qui était ici il y a quelques semaines, invitée dans ce même séminaire, un dossier coordonné sexe et politique dans la revue L'Homme et la Société, en 2013. Voilà, et puis la liste est très longue, donc je vous renvoie plutôt à la page de présentation des nombreux travaux de Claude Didry sur le site du Centre Maurice Alvax. Et voilà, donc sans plus tarder, Claude, je te laisse la parole pour nous présenter ces réflexions issues de ton dernier livre, L'institution du travail, droit et salariat dans l'histoire, qui est paru en 2016 à La Dispute, et où tu nous parles, sur ce livre, de la construction historique du droit du travail en France, avec évidemment toute une réflexion aussi sur les résonances contemporaines aussi de plus de 130 ans, finalement, 140 ans même. Même depuis la Révolution française, c'est vrai. Même s'il y a effectivement un nœud important entre les années 1890-1920, auquel tu t'attaches quand même beaucoup dans ce livre-là. Donc voilà. Alors,
Un grand merci pour cette présentation qui nous place sur ces questions du travail et qui me permettent de découvrir Caen. Je voulais commencer par revenir sur cette dimension du travail qui est souvent prise comme une évidence, c'est-à-dire comme une dimension qui est attachée à une forme de nature humaine et qui se développerait dans l'histoire sous différentes formes, mais en demeurant malgré tout comme quelque chose de l'ordre de l'activité matérielle qui renverrait, par exemple, dans le premier marxisme, à cette dimension de lutte des classes qui oppose travailleurs et ceux qui bénéficient du surplus du travail. Et d'ailleurs, pour commencer, j'avais collecté une petite citation du manifeste du Parti communiste avec cette fameuse phrase « L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes ». C'est une vision des choses qui, dans le marxisme et dans l'œuvre de Marx, a évolué. On le verra un peu dans le courant du débat. Mais il me semble que ça nous renvoie aussi au champ des théories sociales dans lesquelles le travail perd de son évidence. Et par exemple, si on se penche sur un ouvrage d'Émile Durkheim qui est son premier ouvrage, « De la division du travail social », on y découvre que le travail n'y apparaît que dans un second temps, par rapport à une origine sociale qui est ancrée dans des petits groupes et autour de ce que Durkheim appelle la solidarité mécanique, c'est-à-dire une forme d'attachement au groupe sur la base de modèles de comportements qui n'ont rien à voir avec le travail, qui renverraient peut-être plutôt à une dimension religieuse et dans laquelle la division du travail apparaît davantage comme un moteur historique. Et donc, l'ouvrage que je présente aujourd'hui, c'est un ouvrage qui vise à reprendre cette interrogation en dotant le travail d'une forme d'historicité, en se disant que le travail, c'est une catégorie sociale qui a une histoire. Et je suis allé jusqu'à me demander, peut-être de manière un peu provocatrice, si le capitalisme avait besoin du travail en tant que tel. Alors, c'est une question à laquelle j'ai répondu en me fondant sur le droit, qui me paraît être un matériau important pour une investigation sociologique, dans la mesure où il s'agit à la fois d'une construction humaine, d'une écriture collective, et puis en même temps, dans la mesure où il s'agit d'un motif d'action pour les agents dans leurs activités sociales. Et donc, je me suis fondé sur le droit en revendiquant en quelque sorte une forme de causalité sociale du droit sur la dynamique de la société, un peu à l'instar de Weber, revendiquant une forme de causalité sociale pour la religion sous la figure du protestantisme. Alors, c'est une analyse qui m'a conduit à me pencher sur ces évolutions du droit, en partant de la Révolution et en découvrant dans cette analyse du droit issue de la Révolution, donc à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, que, en un sens, l'élément premier dans cette émergence d'une société capitalisme, c'est la libération du commerce et c'est la consécration d'un droit commercial. Et c'est aussi les élaborations juridiques de cette révolution, une situation où les activités productives en tant que telles se trouvent rapportées à un droit qui est plus général que le droit du commerce, qui est le code civil, dans lequel l'élément important est le louage d'ouvrage, c'est-à-dire un contrat qui porte sur l'engagement d'une personne de réaliser quelque chose pour une autre personne, donc quelque chose d'assez large, mais qui va conduire à considérer les ouvriers comme des entrepreneurs, libres à eux de s'associer leur famille, femmes et enfants, hein, dans une société marquée par le patriarcat de ce code civil, hein, où l'homme est le père de famille et les membres de la famille sont des mineurs sous sa tutelle, y compris les femmes. Et donc, dans lesquels on a finalement une activité productive qui est rapportée à la figure de ce chef d'ouvrage, de cet entrepreneur, en reléguant dans les activités familiales le gros de l'élaboration de cet ouvrage, dans une configuration où l'activité productive se passe tant à la ville qu'à la campagne, et où elle se passe davantage au domicile de l'ouvrier que dans des établissements qui sont extrêmement rares au cours du 19e siècle en France. Alors, c'est une situation, naturellement, comme tu le disais, Clotilde, où le code du travail qui intervient à la fin du 19e siècle et au début du 20e apparaît comme une forme de révolution du regard sur les activités sociales, une révolution qui est produite par le droit et donc qui m'a conduit à parler d'une institution du travail sous l'effet de ce droit qui va introduire en lieu et place de ce contrat de louage d'ouvrage le contrat de travail qui change en quelque sorte le point de départ dans l'appréhension des activités productives. On ne part plus de la transaction entre un négociant ou un chef d'établissement et un ouvrier qui ensuite s'organise, mais on part du constat qu'une personne travaille et à partir de là, on s'interroge sur la personne à qui est habituellement destinée destiner ce travail que l'on va nommer employeur. Donc il y a là un changement du regard qui me semble un changement important parce qu'il va susciter un changement dans les modes de produire, dans les formes d'organisation, dans la distinction même du travail comme une activité spécifique dans les activités sociales des individus. Alors pour saisir cette histoire que j'ai voulu en quelque sorte étrange, en essayant de nous dépayser pour considérer ce qui se passe avant ce droit du travail, je partirai de la société capitaliste telle qu'issue de la Révolution, en envisageant là une forme de société traditionnelle, penchant vers la solidarité mécanique, si on reprend Durkheim, mais aussi une société d'entrepreneurs en quête du travail de cette première crise des années 1840 jusqu'à la fin du 19e siècle. J'en arriverai ensuite à une présentation de la société du travail qui émerge à partir de l'adoption progressive d'un code du travail et d'une législation sociale. Et j'en arriverai enfin à une situation actuelle qui me paraît caractérisée par le trouble existant sur l'entreprise et l'employeur, une partie qui mérite aussi d'être historicisée et à laquelle on est arrivé au terme des années 60 avec une forme de concentration, de religion de la taille critique de l'entreprise, puis une situation actuelle marquée par un recentrage de cette entreprise sur son cœur de métier et probablement une dimension de sous-traitance qui reste à explorer. Donc voilà un peu le schéma que j'avais prévu dans une annonce, hein. Inquiétude d'une société de sous-entrepreneurs, société du travail, grande transformation de l'employeur, pour en arriver donc à cette inquiétude d'une société de sous-entrepreneurs en me posant cette question peut-être provocante qui serait la suivante, la révolution a-t-elle véritablement besoin du travail ? Hein, c'est une question qui était posée à propos de l'exécution de Lavoisier qui demandait pendant la terreur à ce que son exécution soit suspendue le temps qu'il puisse finir son expérience, à quoi le président du tribunal révolutionnaire qu'au final lui répondit « La République n'a pas besoin de chimistes, le cours de la justice ne peut être suspendu ». Enfin je ris mais c'est dramatique hein. Et donc ça conduit à son exécution mais on a finalement une question qui peut se poser à propos du travail. En revenant sur cette histoire révolutionnaire qui, on le sait, est une histoire destructrice puisque la Révolution entend détruire l'ancien régime, avec lui les droits féodaux, les corporations, mais en même temps en se demandant si cette Révolution, dans sa démarche de destruction et de reconstruction, vise véritablement le travail. Alors, dans une histoire, disons, classique, du monde du travail et de l'histoire sociale, on a cette idée que le décret d'Allard, la loi Le Chapelier, c'est-à-dire des lois qui visent à entériner la suppression des corporations et à interdire ce que l'on appelle la coalition, c'est-à-dire on pourrait traduire ça en grève, mais je pense que c'est plus complexe qu'on ne le croit. On prend souvent ces lois un peu comme des actes fondateurs, donc en assignant à la Révolution une activité de pure destruction qui placerait en quelque sorte les travailleurs dans une situation d'isolement face au patron. Et je crois que c'est une erreur de lecture qui tient à ce que ces décrets, ce décret d'Allard, de cette loi Le Chapelier, vise d'abord le commerce. Hein, elle vise d'abord à assurer une liberté du négoce contre l'héritage corporatif avec un décret qui porte sur l'institution de la patente, hein, un impôt qui vise à remplacer les impôts corporatifs, ou la loi Le Chapelier qui prohibe les coalitions, principalement les coalitions d'entrepreneurs, dans le cadre des travaux publics. Et donc, c'est quelque chose qui d'ailleurs se vérifie dans la postérité de ces actes juridiques qui se retrouvent aujourd'hui beaucoup plus du côté du domaine de la concurrence, du droit des affaires, que du côté du travail. Et cela tient probablement à ce que la Révolution, c'est une dynamique à la fois collective et institutionnelle qui vise à étendre, à ouvrir la liberté du commerce avec le maintien de tribunaux de commerce en 1790 et au moment de l'Empire, l'instauration d'un code de commerce qui reprend les législations commerciales de l'ancien régime. Et avec un droit qui, en un sens, est un droit définie pour une partie de la population, de la partie de la population qui sont constituées par les commerçants, ceux qui font habituellement acte de commerce, hein, qui se distinguent par là du reste de la population. Dans le même temps, la Révolution, c'est aussi une reconstruction sociale, et une reconstruction sociale qui va rentrer dans le droit à travers l'abolition de droits spéciaux, des droits régionaux, des droits corporatifs, des droits féodaux, pour aller vers un droit commun des Français, qui va prendre progressivement, au terme d'une expérience jurisprudentielle pendant la période révolutionnaire, qui va prendre la forme du Code civil, hein, qui est proclamé en 1804, à la veille de l'Empire, et qui apparaît comme un droit commun, un droit populaire au sens d'un droit du peuple, qui a une forte popularité, et dans lequel on va trouver ce fameux louage d'ouvrage, qui est le louage de référence pour ceux qui font des ouvrages, c'est-à-dire les ouvriers, qui permettent d'alimenter la production des marchandises que commercialise le négoce. Et ce louage d'ouvrage, eh bien, c'est une catégorie juridique qui est empruntée du droit romain pour désigner le travail des zones libres. Et c'est une catégorie juridique qui va émerger de cette pratique jurisprudentielle revendiquée par les ouvriers dans le cours de la Révolution elle-même, les ouvriers notamment du Faubourg à Paris, et qui tend à étouffer une autre version de louage, qui est le louage de service, par lequel on met à disposition sa personne pour un maître. Et là, le louage d'ouvrage, c'est autre chose. C'est une revendication dans laquelle on s'engage à réaliser un objet à prix fait, et où finalement on écarte ce rapport personnel de sujétion qui est direct, hein, ce rapport de domesticité que la Révolution condamne, pour donner la primauté à cette réalisation de quelque chose en donnant à l'ouvrier la liberté de s'organiser un petit peu comme il l'entend. Autant dire que le travail, en fait, dans cette dynamique n'a pas bonne presse, que le louage de service va être réduit à une portion congrue et que ce qui va importer, c'est cet ouvrage dans lequel on donne liberté aux ouvriers de s'organiser et où cette liberté est consacrée dans l'article conclusif sur la vingtaine d'articles qui est consacré au louage d'ouvrage, dans l'article conclusif qui est l'article 1799 où il est écrit les ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, c'est-à-dire qui font des engagements à réaliser un ouvrage à un prix donné, sont entrepreneurs en la partie qu'ils traitent. Et c'est une phrase qui a son poids parce que elle nous oriente vers un édifice qui va être complexe dans lequel la distinction ouvrier-patron n'a pas du tout le sens qu'on lui prête aujourd'hui et où finalement on va s'acheminer vers une forme de rémunération à la pièce de manière dominante et vers une forme de sous-traitance en cascade dans lequel des maîtres issus des corporations traitent à prix fait avec des négociants, puis avec des ouvriers, des compagnons qu'ils vont à leur tour embaucher. Donc quelque chose qui va être assez intéressant à observer, notamment dans le contexte d'une société qui émerge avec la Révolution, d'une société qui se caractérise par la fixation durable d'une paysannerie propriétaire, hein, c'est-à-dire d'une société qui va être durablement rurale, ce qui représente un trait distinctif de la société française par rapport notamment à la société britannique, telle que l'envisage un auteur tel que Karl Polanyi dans La Grande Transformation, hein, ou encore tel que l'envisage Engels dans La Condition de la classe laborieuse en Angleterre, où le fait marquant va être le fait des enclosures, des expropriations des communs par l'aristocratie anglaise et l'exode rural. En France, pas du tout. Hein, on a une situation où la paysannerie se trouve durablement implantée, mais aussi où, nous dit par exemple un historien comme Philippe Minard, qui a observé le développement du colbertisme au XVIIIe siècle, où l'industrie est depuis longtemps à la campagne, où l'on produit au champ. Hein, c'est-à-dire que l'on cultive, mais en même temps, pendant les périodes de morte saison, on produit des objets, on tisse, on produit dans la région stéphanoise des armes, et on se trouve donc dans une France qui est maillée, en quelque sorte, par des districts industriels, c'est-à-dire des univers de production qui sont diffus, qui existent à la fois sur des villes, mais qui diffusent dans les campagnes, comme dans le cas de la soierie lyonnaise, par exemple, hein, qui diffuse dans la campagne lyonnaise jusque dans le Beaujolais. Dans le cas de la rubannerie stéphanoise, qui... Elle est spécialisée dans la production du ruban, qui d'ailleurs a une postérité aujourd'hui dans la production de bandes, de pansements et autres matériaux médicaux, ou encore dans l'armurerie, hein, qui est une activité précise, complexe, qui se diffuse dans les campagnes de Saint-Étienne, ou encore, pour être plus proche de Caen, dans le cas de la draperie rouennaise, avec des centres industriels comme Elbeuf, mais aussi une diffusion très importante du tissage à domicile. Et donc, on a ce contexte d'une production qui est territorialisée et par rapport à laquelle, pour moi, la soierie lyonnaise, c'est un épicentre important, une forme emblématique de cette organisation des activités productives qui nous permet de saisir, de prendre la mesure de cette architecture juridique que nous livre le Code civil. Et ce que l'on constate dans cette soierie lyonnaise, c'est un univers de production qui est marqué dès le XVIIIe siècle par une fracture très importante entre d'un côté l'univers de la corporation qui groupe des maîtres et des compagnons dans une activité productive dont les produits sont destinés à une autre partie de la population qui sont les négociants, ceux qui sont en charge de la mise en vente de ces étoffes de soie. Et c'est une situation où, finalement, l'abolition des corporations ne supprime pas cette solidarité maître-compagnon qui se renforce avec cette liberté du commerce, mais où, finalement, ce qui est important, ce qui va devenir une source de tension permanente, c'est la négociation d'un tarif de pièces que les chefs d'atelier, les maîtres, vont pouvoir imposer aux négociants, avec des formes de débats constants en fonction du haut et des bas des affaires, ce qui distingue par exemple la soierie lyonnaise de la soierie londonienne, étudiée par un chercheur qui s'appelle Simon Huffel, et où l'on voit une soierie londonienne, elle, qui est marquée par une fracture entre des maîtres qui deviennent négociants, directement, et des compagnons qui restent au service des maîtres. Et donc une forme de rapport dans l'activité productive qui est très différente de ce louage d'ouvrage que l'on rencontre en France. Alors on a cette revendication permanente d'un tarif avec des maîtres qui sont des chefs d'atelier, c'est-à-dire au XIXe siècle des ouvriers qui travaillent chez eux, qui sont propriétaires de leur métier à tisser et qui sont le fer de lance d'une contestation régulière face à des négociations soucieux d'arriver au prix le plus modique et donc qui revendique de manière constante ce tarif de la pièce pour permettre de vivre, de faire vivre leur famille et de faire vivre les compagnons qu'ils ont engagés dans leur atelier. Hein. Et donc une dynamique sociale où finalement le monde ouvrier est représenté par ses chefs d'atelier et où le commerce est représenté par ses négociants dans le contexte d'une forte inventivité institutionnelle puisque il faut rappeler ici que Lyon, c'est la patrie, le lieu de naissance des conseils de prud'homme avec un premier conseil de prud'homme créé en 1806 qui va ouvrir la voie à tout un ensemble de conseils de prud'hommes, mais où il faut se rappeler que ces magistrats prud'homaux, qui sont des magistrats élus, sont élus par des négociants d'une part pour représenter le commerce, par des chefs d'atelier d'autre part pour représenter le monde ouvrier, et donc ont en charge des litiges qui leur sont soumis et qui sont, de manière très exotique par rapport à la situation contemporaine des prud'hommes, souvent des litiges qui opposent des ouvriers à des ouvriers, hein, c'est-à-dire des chefs d'atelier à des compagnons ou à des apprentis, par exemple dans des formes d'insoumission d'apprentis, hein, propre à la vivacité de la jeunesse. Alors, c'est une situation complexe, une situation tendue et une situation qui donne lieu à des insurrections. Je pense que ça permet aussi d'avoir un regard sur le 19e siècle dans le domaine de la production et du monde ouvrier, qui est un regard qui nous sort de cette vision d'un monde ouvrier opprimé écrasé sous une chape de plomb qui le condamne au silence, parce que on a un siècle d'insurrection, on a un siècle de révolution. Hein, 1830 à Paris, c'est un mouvement ouvrier. 1848, c'est une révolution ouvrière. La deuxième République, c'est une République qui fait une place au monde ouvrier et à des dimensions sociales. Maurice Aguillon nous dit une expérience de République socialiste. Et puis, on peut citer dans ces années 1830 les insurrections lyonnaises, qui sont comparables à ce que l'on rencontrera à Paris en 1870 avec la Commune, hein, puisque l'insurrection de 1831 se traduit par la prise du pouvoir municipal par les Canuts, hein, qui sont ensuite délogés par la troupe, et puis on repart sur cette dynamique en 1834 avec une répression cette fois-ci qui est beaucoup plus forte et qui conduit finalement l'univers de la soierie et l'univers ouvrier de la soierie à sortir de sa focalisation sur l'univers de la soie, avec des ouvriers qui, loin de, par exemple, rejeter les machines, sont très attentifs au progrès technique, sont très attentifs à la création, mais qui, là, se voient écrasés et se tournent vers une pensée plus large de l'univers ouvrier en s'assimilant à des prolétaires. Et ça me conduit à souligner l'importance de cette réflexion qui émerge dans les années 1830 et plus encore 1840, une réflexion qui est marquée par une pensée du travail dans une vision d'une société utopique qui serait fondée sur le travail. Alors ce sont des démarches que l'on trouve par exemple dans un ouvrage de Louis Blanc qui est publié en 1839, qui va être un best-seller des années 1840, qui est l'organisation du travail, où l'organisation du travail est vue comme un facteur positif par rapport au règne de la concurrence qui résulte de ces multiples sous-entrepreneurs prenant de l'ouvrage. On peut évoquer aussi toute cette pensée sociale qui se développe à partir de Saint-Simon et peut-être plus encore à partir de Fourier autour d'une société qui serait fondée sur des phalanstères, des univers un peu Monaco où il y aurait, disons, comme centre de vie le travail. On peut évoquer aussi le rêve ouvrier, c'est-à-dire toute cette pensée ouvrière qui s'écrit la nuit, selon Jacques Rancière, hein, dans les mansardes ouvrières parisienne, où l'on rêve à une république du travail. On peut évoquer encore ce fameux droit au travail que défendent Louis Blanc, Ledru Rollin ou encore Lamartine. Et puis, il faut aller jusqu'à envisager cette révolution de 1848 qui revendique dans les termes des ouvriers qui prennent l'hôtel de ville, hein, en février 1848, qui revendique un ministère du travail et qui obtiennent une commission du travail, dite commission du Luxembourg, dirigée par Louis Blanc et l'ouvrier Albert, qui va avoir comme première mesure, le 2 mars 1848, d'une part la limitation de la journée à 10 heures, et donc une forme de novation par rapport à un louage d'ouvrage où la durée du travail n'a pas véritablement de sens, mais qui vise malgré tout à commencer quelque chose, et puis surtout une prohibition du marchandage, c'est-à-dire une prohibition des formes les plus extrêmes de louage d'ouvrage qui donnent lieu à exploitation de la main-d'œuvre présente dans le louage d'ouvrage par le chef de louage d'ouvrage que l'on va nommer un marchandeur. Hein. Et donc, on a là le souci d'arriver, en quelque sorte, à une démocratisation du marchandage, au développement d'un esprit de coopération en lien avec la valeur de fraternité que la Deuxième République affirme, hein, aux côtés de l'égalité et de la liberté héritée de la Révolution française. Alors, on a une situation dans laquelle l'édifice du louage d'ouvrage est atteinte. Ah oui, alors, j'ai fait un PowerPoint illustratif pour vous montrer un peu le Canut, hein, tel qu'on le voit dans son atelier avec la famille. Et puis, j'en arrive maintenant à la Révolution de 1848, à l'abolition de l'héritage, à la remise en cause de l'édifice du louage d'ouvrage tel qu'hérité du Code civil, mais en même temps une remise en cause qui se trouve contrecarrée par une forme de réaction libérale, et notamment réaction qui s'incarne dans les propos d'un homme politique qui s'appelle Adolphe Thiers, hein, qui sera le premier président de la République, mais aussi peut-être aussi le bourreau de la Commune, et qui écrit dans un ouvrage au titre éloquent « De la propriété », qui écrit ce passage suivant, hein, le marchandage est l'occasion pour l'ouvrier de mérite, hein, d'arriver à une forme de promotion, de devenir, nous dit Adolphe Thiers, un entrepreneur sans capital, hein, et donc avec cette idée d'une société d'entrepreneurs où la promotion ouvrière peut être assurée par cet investissement dans soi-même, en un sens, dans la recherche d'une expansion de ses affaires, hein, en dépit de la concurrence qui l'entoure. Alors, on a une situation où le marchandage se retrouve valorisé, hein, valorisé aussi par les économistes qui y voient une forme d'appariement optimal entre des ouvriers compétents, et où il prend une tournure large qui donne lieu d'ailleurs dans le Capital de Karl Marx en 1867 à une forme de critique de cette situation. Pour Marx, c'est une situation qui est marquée par le règne des intermédiaires. Hein. Il nous dit « Le gain des intermédiaires découle exclusivement de la différence entre le prix du travail que paie le capitaliste et la partie de ce prix qu'il fait parvenir réellement à l'ouvrier. » Marx introduit ou développe ce terme de « sweating system ». On dit qu'il est apparu en Angleterre dans les années 1850. Et il présente ensuite cette situation de salaire aux pièces dans toute son extension, c'est-à-dire une extension qui va de la manufacture, avec le chef de groupe, nous dit-il, aux mines, jusqu'à la fabrique mécanisée, hein, où des ouvriers mécaniciens sont dans une situation où ils embauchent eux-mêmes des auxiliaires. Et Marx de conclure, l'exploitation des travailleurs par le capital se réalise ici au moyen de l'exploitation du travailleur par le travailleur. Ce qui me paraît être une phrase extrêmement importante pour saisir la complexité de la pensée de Marx telle qu'elle apparaît dans le Capital. Mais c'est une complexité qui correspond en France à une réalité avec une diffusion très importante du marchandage et du louage d'ouvrages dans l'ensemble des activités productives, dans la production à domicile en premier lieu, mais aussi dans les mines, hein, et on se souvient par exemple de Germinal, où l'enjeu c'est la défense de la rémunération tirée par le marchandage que dirige le Mahe, hein, et qui est rémunéré à la tonne de charbon extraite, qui va permettre de donner de l'argent à la femme du Mahe pour aller chez le fameux épicier, et puis dans le même temps de rémunérer les personnes qu'il a recrutées, hein, le Chaval ou Étienne Lantier. Et on peut évoquer aussi la situation des usines, j'ai été surpris par exemple de découvrir une situation de marchandage dans une usine de la Loire, alors que j'évoque dans une petite photo un laboratoire fourriériste, une usine de la Loire qui se présente soi-disant comme une usine modèle, où le créateur de cette usine est un disciple de Charles Fourier, qui a essayé de créer des logements ouvriers, des crèches, des pouponnières, des écoles, des librairies, des bibliothèques, des lavoirs, mais où dans le même temps, après la disparition de ce fondateur charismatique, Pierre Dorian, on découvre en 1902 un enfant qui travaille après minuit dans l'usine. Et un inspecteur du travail dresse une contravention au directeur de l'établissement, lui disant « Mais on a là quelque chose qui contrevient à la loi de 1892 qui interdit le travail de nuit des enfants et des femmes. » Réponse du directeur de l'établissement, réponse c'est « Je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable parce que cet enfant, ce n'est pas moi qui l'ai engagé, c'est un ouvrier qui travaille pour moi, un ouvrier qui a agi en tant que marchandeur, en tant que tâcheron. Et donc, si contravention il y a, c'est cet ouvrier qui doit être tenu responsable de cette contravention. » une situation qui est de ce point de vue-là tout à fait intéressante jusque au cœur de ces années de travail, je dirais, hein, et qui d'ailleurs se trouve tranchée par un arrêt très volontariste de la Cour de cassation qui souligne la responsabilité du directeur de l'établissement, hein, au terme de la loi de 1892. Mais il faut véritablement une action gouvernementale pour arriver à ce résultat. Donc une situation où le marchandage est très important. important, où il prend une forme qui est aiguë à Paris dans le cadre des travaux de l'exposition universelle de 1900, hein, année 1890, où le marchandage se diffuse. Donc, les grands travaux de l'expo, hein, je vous ai trouvé une petite photo, et puis où le marchandage prend une forme aiguë également, dans ce que l'on appelle à l'époque une question sociale qui n'est pas liée à une forme d'oppression ouvrière dans de grands établissements industriels, mais qui est liée à une forme de sous-traitance en cascade que l'on rencontre dans le secteur de la confection, qui alimente notamment les rayons des grands magasins, et qui aboutit à, par une succession d'intermédiaires, à la confection de vêtements dans, au domicile de couturières, hein, dans le cadre de mansardes misérables, que Marx décrit bien aussi pour le cas londonien dans le Capital, et qui se trouve qualifié à l'époque de « sweating system ». Donc une situation où le marchandage est partout et où finalement il est l'objet aussi de contestations, hein, avec en particulier un arrêt très important de la Cour de cassation en 1900 qui va permettre de reconnaître la légalité du décret de 1848 qui abolit le marchandage et qui va se retrouver présent dans le code du travail d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire le refus d'un prêt de main-d'œuvre qui donne lieu à un enrichissement d'un intermédiaire. Une situation de contestation du marchandage dans lequel, au cours de ces années 1890, c'est finalement le travail que l'on va découvrir, non pas comme base d'une société idéale, mais comme grille de lecture des activités productives de la société française de l'époque. Alors, c'est une dimension qui émerge avec la création d'un Conseil supérieur du travail et d'un Office du travail en 1891, qui se lance dans des enquêtes sur la durée du travail, le niveau des salaires, peut-être même des enquêtes quelquefois en quelque sorte anachroniques, parce qu'il est difficile de saisir une durée du travail quand on observe le travail des rubaniers stéphanois ou des canuts qui peut prendre des dimensions nocturnes affirmées en période de forte pression de la demande, hein, mais aussi un travail qui inspire la réflexion sociale, hein, on pense à la division du travail social d'Emile Durkheim en 1893, qui va être aussi une source d'inspiration pour ces députés socialistes qui arrivent en masse à la Chambre, et par exemple pour Jaurès dans la conception d'une société collectiviste fondée sur ces groupements professionnels que Durkheim imagine dans la poursuite du développement lié à la division du travail. Et donc une société dans laquelle le travail devient un élément important pour observer et penser des cadres d'organisation de la vie sociale. Et c'est dans ce contexte-là donc que se dessine un code du travail sous l'impulsion d'un député socialiste qui est Arthur Groussier. Alors, il faut que je vous retrouve la petite photo. Arthur Groussier. Non, j'ai pas la photo. Par contre, j'ai son projet, une proposition de code du travail qu'il dépose en 1898 et qui va devenir la base de discussion que va lancer un socialiste devenu ministre du Commerce et de l'Industrie et qui se nomme Alexandre Millerand. Et donc de ces socialistes qui ont sillonné la France pour animer les grèves, qui, par leur action d'arbitrage et d'animation de grève, ont eu des carrières politiques, dans le cas de Jaurès à Carmaux par exemple, et qui, par leur connaissance de l'univers du travail, sont à même d'arriver à proposer un code du travail ou à engager une dynamique législative autour de ce code. Et donc, on a finalement une réflexion qui s'engage à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, dans lequel, eh bien, c'est l'héritage révolutionnaire qui se trouve remise en cause, pour arriver à introduire dans le droit ce changement de point de vue que constitue code du travail et, comme pierre d'angle de cet édifice, le contrat de travail. En effet, hein, le contrat de travail oblige à partir du travailleur, quel qu'il soit, et y compris de la femme qui travaille pour le marchandeur ou du compagnon qui travaille pour le marchandeur, pour identifier à partir de là un employeur. Hein, et un employeur qui sera identifié, par exemple, en tenant le marchandeur lui-même pour un employé, un salarié du donneur d'ordre principal. Hein, donc, il permet là par là d'imaginer des rattachements de ces travailleurs individuels à des personnes à qui est destiné le travail et qui seront dites employeurs et pour cela tenus pour responsables du versement du salaire, mais aussi pour responsables de la mise en œuvre des règles légales interdisant, par exemple, le travail de nuit des femmes et des enfants, ou interdisant plus radicalement le travail des enfants en deçà d'un certain âge, ou encore responsables des garanties en matière d'accident du travail. Donc, une situation où ce code du travail ne se ramène pas à une compilation de lois protectrices, mais où il définit véritablement le travail comme une activité individuelle qui lie un travailleur à un employeur et qui, dans le même temps, fait rentrer ce travailleur dans une collectivité, la collectivité de ceux qui sont liés à un même employeur. Et donc, on a là une double dimension qui mérite d'être explorée. Premièrement, une dimension individuelle, voire individualisante du travail qui va conduire à envisager le contrat de travail pour une personne et qui permet donc de sortir tout ce travail clandestin hein, que cache en fait le dispositif du marchandage, hein, qui accompagne d'ailleurs une réflexion sur la libre disposition de son salaire par la femme mariée. Hein, et donc progressivement, en entamant du côté du travail, le patriarcat officialisé par le Code civil. Et puis, d'un autre côté, on a un droit du travail qui œuvre dans un premier temps de réflexion, d'écriture, d'analyse juridique, se développe dans des débats parlementaires, dans des débats juridiques, avec des professeurs de droit qui se penchent sur ce que peut être le contrat de travail, eh bien, on va avoir un droit qui, progressivement, à partir de là, et à partir de son adoption en 1910, avec le premier livre du Code du travail, va entrer dans la vie sociale des acteurs eux-mêmes, va devenir un cadre de référence pour leurs relations, hein, c'est-à-dire pour les travailleurs et les employeurs, notamment à l'occasion de nouvelles lois, comme la loi sur la journée de 8 heures, qui oblige à se poser la question de ce que c'est qu'un marchandage et de ramener le salaire à la pièce qui font ce marchandage à une forme de durée temporelle, hein, et donc qui commence à faire du travail au temps une norme de base pour évaluer ce que c'est que le travail, pour distinguer le travail comme une durée de la vie, hein, en dehors par exemple des activités familiales ou du repos. Hein, on se souvient de la fameuse affiche de propagande sur la journée de 8 heures, où on voit l'individu au repos, en famille et dans l'atelier. Et puis, un droit du travail qui est sollicité aussi à propos des lois de protection sociale, savoir qui est protégé par une loi contre les accidents du travail qui oblige l'employeur à s'assurer contre la survenue d'accidents du travail pour indemniser les travailleurs touchés. C'est une question qui est débattue. On la limite, au début, cette loi en 1898, on la limite aux établissements mécanisés. Et puis progressivement on l'étend et on la retrouve mise en œuvre dans les exploitations agricoles, dans le bûcheronnage, ce qui est une chose chose qui fait longtemps débat et qui se trouve tranchée en 1920 par le fait qu'un bûcheron accidenté présent sur un chantier est déclaré salarié du marchand de bois qui lui-même est considéré comme employeur. Donc une situation où, disons, ce code du travail va entrer dans la vie quotidienne, et il va rentrer a fortiori dans la vie quotidienne avec la création des assurances sociales en 1928 qui suppose des cotisations sociales et qui suppose donc de définir qui est assujetti à ces cotisations sociales. Donc avec des débats importants là sur la question de savoir si les travailleurs à domicile, ce que l'on appelle les travailleurs isolés, sont des gens qui sont à leur compte ou bien s'ils doivent être considérés comme salariés. Et donc des débats qui vont être tout à fait intéressants de ce point de vue-là. Donc un droit du travail qui se pénètre dans l'univers industriel, qui pénètre dans le travail à domicile et qui conduit à circonscrire, à unifier cet univers du travail qui accompagne la production de biens marchands. Alors, c'est une dimension, naturellement, qui n'est pas simplement une dimension individualisante, mais qui est une dimension collective spécifique avec le fait que le contrat de travail, c'est un contrat noué avec un employeur, la plupart du temps le directeur d'un établissement, et donc où l'on va considérer l'établissement comme le lieu du travail, un lieu distinct du domicile, le plus souvent, soit par présence effective des travailleurs, soit par rattachement des travailleurs à domicile à ce lieu, et donc une collectivité nouvelle, et une collectivité nouvelle qui, sous le label de travail, intègre non seulement des ouvriers et des travailleurs manuels, mais des ouvriers qui proviennent de différents métiers, qu'on va dire connexes parce qu'ils participent à la réalisation d'un même objet, mais qui intègre aussi des travailleurs intellectuels comme des ingénieurs, des techniciens, et donc qui intègre ce que l'on appelle le personnel d'un établissement. Et donc une réflexion importante qui suppose de se poser la question aussi de la représentation de cette collectivité de travail que le législateur prévoit également avec un projet de loi présenté en 1900 par le même Alexandre Millerand et le président du Conseil Pierre Valdec-Rousseau, qui est un projet de loi de Conseil du travail qui vise à organiser la représentation élue des travailleurs à l'échelle de l'atelier, de l'établissement et à une échelle nationale. Donc une démarche de représentation qui va devenir importante et qui va se retrouver dans une dynamique forte dans laquelle vont jouer un acteur qui, à mon avis, doit être introduit aussi dans cette histoire du droit du travail et du travail, qui est l'acteur syndical. Parce que cette émergence du travail sous sa dimension individuelle et sa dimension collective, eh bien, c'est aussi une dynamique qui, dans les années 1890, affecte de manière profonde le syndicalisme. Le syndicalisme, c'est une institution juridique qui, en France, commence en 1884, avec une loi sur les syndicats professionnels, mais une loi qui, sur les syndicats professionnels, ne vise pas les ouvriers en particulier, mais qui vise l'ensemble des secteurs d'activité. Et donc, on a des syndicats pour, par exemple, les vendeurs d'articles de mode. On a des syndicats pour les bouchers, des syndicats pour les charcutiers. On a d'ailleurs des controverses tout à fait intéressantes entre les syndicats de bouchers et les syndicats de charcutiers. Les bouchers reprochant aux charcutiers de vendre du bœuf et les charcutiers reprochant au boucher de vendre du porc. On était très loin du boucher charcutier que l'on trouve aujourd'hui. Et donc, on a une situation où le syndicalisme, c'est quelque chose de très diffus, de très territorialisé, dans lequel on va trouver tout autant des travailleurs en établissement mécanisé que des travailleurs à domicile. Et d'ailleurs, ça a été une de mes surprises en analysant la genèse de la convention collective, que de voir l'importance des mouvements collectifs des années 1890-1900 qui se situent dans le contexte de fabriques collectives où on a beaucoup de travailleurs à domicile qui revendiquent la fixation de tarifs. Hein, donc on a quelque chose là qui est durable, qui est important et qui montre comment le syndicalisme se diffuse, avec d'ailleurs une difficulté à s'imposer hein, lorsqu'il s'agit de revendiquer l'application d'un tarif. Hein, si par exemple des travailleurs à domicile revendiquent l'application d'un tarif pour des travailleuses dans des usines. Hein, c'est le cas d'un arrêt de la Cour de cassation qui rejette l'action du syndicat en disant que les travailleuses de cette usine sont lésées individuellement et qu'elles ont elles-mêmes un droit à agir, mais pas le syndicat, qui lui-même n'est pas partie prenante. Donc des résultats où ce syndicalisme n'a pas encore véritablement pris pied dans l'univers du travail et de la production, et qui s'accompagne d'une innovation institutionnelle importante en 1895 avec la création de la Confédération Générale du Travail, hein, c'est-à-dire un organe qui vise le travail et qui, de ce point de vue, se distingue par exemple de ce qu'on trouve en Grande-Bretagne avec la création d'un Trade Union Congress, c'est-à-dire d'une agrégation des syndicats de métiers. Hein, et c'est une innovation institutionnelle qui prend toute son importance au début du XXe siècle, avec le souci de sortir de fédérations de métiers, hein, qui sont presque un héritage corporatif et très éclaté, pour arriver à des fédérations d'industrie ou des fédérations de branches, c'est-à-dire des fédérations qui vont agréger les syndiqués appartenant à des établissements qui eux-mêmes présentent des caractéristiques techniques communes. Hein. Donc on part plutôt de la technique des établissements que des savoir-faire des individus. Et dans ce contexte-là, on voit bien se dessiner ce souci d'avoir un syndicalisme qui porte sur des grandes branches industrielles et qui, par là même, suppose de syndicaliser non pas simplement, par exemple, les plombiers hein, dans le secteur du bâtiment et puis, d'un autre côté, les maçons, mais qui suppose de syndiquer les travailleurs du bâtiment, qui suppose de syndiquer les travailleurs d'un même établissement, qu'ils soient ouvriers, employés ou techniciens. Donc une situation intéressante de ce point de vue-là, que la guerre encourage avec la mise en place d'une industrie de guerre, hein, parce que la guerre, il faut l'admettre, a été un formidable moment en France d'innovation technologique, avec des développements dans la chimie, hein, et le mémorial de Caen est là pour en rappeler les atrocités, hein, mais aussi des développements dans l'automobile, hein, avec je veux dire, une production automobile qui atteint des records, hein, qui se développe du côté du char d'assaut, inventé par Renault, et puis dans le domaine de l'aéronautique, hein, c'est-à-dire une industrie extrêmement innovante qui suppose une activité de production dans laquelle interviennent tout à la fois des ingénieurs et des ouvriers. Alors je ne sais plus très bien pourquoi je vous disais cela, mais je vous disais cela peut-être pour souligner l'importance de l'établissement qui émerge avec la guerre, hein, qui est le moment aussi où l'on commence à expérimenter des délégués d'atelier sous l'impulsion du ministre de la guerre qui est Alexandre Millerand. Et j'ai oublié de vous montrer mes beaux transparents. Alors là, je suis triste. Pour évoquer Millerand, j'évoquerai la Tour du Travail, c'est-à-dire l'œuvre qui devait symboliser l'exposition universelle de 1900 et qui est un plâtre et qui devait être une tour d'une centaine de mètres de haut, qui n'a jamais été construite au grand regret de Rodin. Et qui devait symboliser le travail à l'exposition universelle de 1900. Et donc, exposition universelle de 1900, qui est un moment décisif pour la cristallisation d'un débat sur le travail, où l'on crée une association internationale pour la protection légale des travailleurs qui pose les bases d'une organisation internationale du travail. Enfin bon, donc un moment important que la guerre accélère en quelque sorte hein, dans sa mise en œuvre productive et qui se prolonge au lendemain de la Première Guerre mondiale avec une dynamique de développement industriel, mais aussi un changement de pratique syndicale, c'est-à-dire véritablement le souci d'avoir un ancrage syndical dans les établissements qui se manifeste particulièrement au lendemain de la scission entre la SFIO et le Parti communiste, hein, avec l'idée du Parti communiste d'arriver à des cellules d'établissements ou d'entreprises, et puis parallèlement, le développement du côté du syndicalisme communiste qu'on appelle unitaire, hein, la CGT unitaire, de créer des sections d'entreprises, des comités d'usines et des syndicats d'établissements. Donc un ancrage au niveau de l'établissement très marqué du côté communiste, mais présent également, notamment dans des optiques de nationalisation, du côté socialiste et confédéré, hein, de cette CGT maintenue au lendemain de la guerre, donc qui explique en quelque sorte la dynamique sociale de l'entre-deux-guerres avec des mouvements de grève qui partent des établissements, qui visent à mobiliser les travailleurs d'un même établissement, et qui se cristallise véritablement à partir des années 30, qui se cristallise avec l'expérimentation d'une technique nouvelle d'action, c'est-à-dire l'occupation de l'établissement, hein, l'occupation de l'usine, qui deviendra le modus operandi des grèves de mai-juin 36, au moment de l'arrivée d'une majorité de Front Populaire à la Chambre. Hein. Et donc on a là une dynamique où la grève est une forme d'action qui s'ancre dans l'établissement, qui devient par là même un moment festif. Hein. On se souvient des grèves de 36 et des représentations théâtrales, hein, sous l'impulsion de la troupe de Prévert, par exemple, hein, où des artistes se produisent, et avec une espèce de tradition qui s'ouvre dans des occupations qui seront animées par des artistes. Ça se retrouvera en 68 également. Une dynamique sur cette base, une dynamique de négociation qui s'engage avec, à mon avis, dans cet ensemble, non seulement la semaine de 40 heures, non seulement les congés payés, mais aussi la négociation de conventions collectives de branches, c'est-à-dire de négociations collectives qui vont fixer une hiérarchie salariale avec des salaires minimaux pour différentes catégories et qui vont donc conduire à intégrer une vision du salariat autour d'une forme de classification qui va prendre une tournure de plus en plus affirmée dans la vie sociale. Hein. Cette classification, c'est la classification qui s'organise autour la classification ouvrière, hein, avec polarisée entre ouvriers spécialisés, ouvriers professionnels, employés, techniciens, agents de maîtrise et ingénieurs. Et c'est une catégorisation du monde du travail qui esquisse, on le voit, une forme d'organisation de l'établissement, mais pensée au niveau de la branche industrielle, et qui, à la libération, est reprise sous la forme de décrets qui permettent de fixer les minima salariaux dans un contexte de politique de rationnement, qui permettent de fixer les minima salariaux pour ces différentes catégories et qui permettent donc d'étendre l'emprise de ces catégories à l'ensemble de la société. Et on voit là, finalement, une dynamique de classification que l'on retrouvera, par exemple, sous la forme des fameuses catégories socio-professionnelles que mobilisent nombre de sociologues dans la lignée, par exemple, de Pierre Bourdieu. Et on voit ici aussi, une espèce de cartographie du monde du travail qui, au-delà de la classification, permet aux travailleurs d'imaginer une carrière professionnelle, hein, où l'on voit, par exemple, des formes de trajectoires ouvrières vers l'univers des techniciens, où l'on voit des formes de trajectoires professionnelles des techniciens vers l'univers des ingénieurs, hein, et dans des dynamiques qui sont des dynamiques qui sont durables, que l'on retrouve aujourd'hui encore, hein, et qui conduisent à saisir ces catégories, non pas comme des sous-groupes sociaux, mais comme des points de repère dans des carrières professionnelles. Donc une dynamique forte qui d'ailleurs, de ce point de vue-là, serait en cohérence avec l'institution d'un statut de la fonction publique en 1946, hein, sur une même base. Et puis, par ailleurs, avec une reconnaissance de ce lieu d'effervescence sociale qu'est l'établissement, sous la forme des comité d'entreprise en 1945, et donc sous la forme d'une représentation de cette collectivité qui, en un sens, représente un point d'aboutissement par rapport au projet de 1900 de Conseil du Travail, mais qui ne va pas jusqu'à la, à ce qui a été réalisé dans l'Allemagne de Weimar, c'est-à-dire jusqu'à un conseil d'entreprise qui aurait des pouvoirs de décision sur la gestion de l'entreprise elle-même et sur la gestion de l'emploi. Donc on a là une dynamique peut-être inaboutie, mais une dynamique importante. Alors, par rapport à cette dynamique qui, en un sens, pose, à mes yeux, les cadres d'un univers qui est proche du nôtre, qu'est-ce qui change dans la situation actuelle? Et il me semble que cette dynamique, eh bien, elle implique de prendre en compte et d'historiciser un acteur que l'on tend souvent à figer. Cet acteur, c'est l'entreprise, le chef d'entreprise ou le patron. On nous parle, par exemple Henri Weber, un historien, a parlé du parti des patrons. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce parti des patrons? Qu'est-ce qu'un patron dans une situation où finalement on a des dynamiques économiques où les employeurs, dans un nombre important de cas, sont des directeurs d'établissement et donc sont des dépositaires d'une autorité patronale incarnée par le conseil d'administration? Donc c'est une question qui est importante, qui, à mon avis, il faut se poser, et qu'il faut se poser notamment au regard d'une évolution qui intervient en France au cœur de ce que l'on a appelé les Trente Glorieuses, c'est-à-dire dans le contexte de modernisation de l'économie nationale qui intervient sous l'impulsion du régime gaulliste dans les années 1960. Et dans ce contexte-là, l'horizon, c'est celui d'un renforcement de l'économie nationale avec l'objectif de renforcer les acteurs économiques français dans un marché commun, c'est-à-dire en premier lieu une union douanière à l'horizon de 1969. Cette dynamique, eh bien, c'est une dynamique qui se traduit par l'ambition de regrouper des entreprises très éclatées sur le territoire national et finalement d'arriver à ce que l'on commence à nommer des champions nationaux. Des champions nationaux qui agrègent des entreprises similaires à l'échelle nationale et qui correspondent un petit peu à l'esprit du conseiller économique du général de Gaulle en 1958-1960 qui s'appelle Jacques Rueff. Et qui vise, en fait, à, nous dit Rueff, mettre en mouvement les structures économiques sous l'aiguillon du marché commun. Donc, pour lui, le marché commun, c'est un marché qui aiguillonne pour arriver à cette dynamique des structures. Et par structure, il faut entendre entreprise. Et donc, il faut aussi entendre restructuration, c'est-à-dire regroupement d'entreprises, réorganisation, modernisation, avec par exemple le développement de la recherche et du développement, mais aussi, et dans le même temps, élimination des doubles emplois. Et ce que l'on constate dans ces années 60, qui sont peut-être les plus intenses en termes de croissance du PIB, c'est aussi des restructurations qui commencent à prendre une tournure intensive, avec des licenciements collectifs qui jusque-là étaient inconnus, et avec, autour de ces licenciements collectifs, d'une part, la relance de l'activité des comités d'entreprise, qui sont présentés à l'époque comme le lieu d'un débat sur la gestion des aspects humains des suppressions d'emplois, et puis, d'un autre côté, la création dès 58 de l'UNEDIC, c'est-à-dire d'une indemnisation du chômage qui va permettre d'accueillir les travailleurs privés d'emploi, et surtout la création d'un fonds national de l'emploi qui permet de financer des pré-retraites, c'est-à-dire qui permet de faire sortir les travailleurs les plus âgés des entreprises et par là même d'arriver à réduire le nombre d'emplois. Et donc une dynamique générale importante qui s'accompagne aussi d'un changement de figure de l'employeur, parce que l'employeur, dans ces années 60, ça n'est plus simplement le directeur d'un établissement, l'employeur devient le directeur, la direction d'une entreprise. C'est à ce moment-là que l'on voit apparaître des services des ressources humaines, la capacité de calculer une masse salariale et donc d'envisager aussi un ajustement de cette masse salariale dans la recherche de marge pour l'entreprise. Donc une dynamique importante et une dynamique qui se traduit aussi par, au sein de ces grandes entreprises, eh bien, le développement d'une négociation d'entreprise qui est incarnée notamment par les accords Renault de les années 50, mais qui prend son envol dans les années 60-70, et puis qui implique également de concevoir et de développer la possibilité de carrière hein, pour les ouvriers, pour les techniciens. On parle à l'époque de nouvelle classe ouvrière hein, dans l'optique de Serge Mallet. Donc une dynamique importante qui accompagne des développements du droit du travail. Et on peut citer à de ce point de vue eh bien, une forme de charte du contrat à durée indéterminée que constitue une loi de 1973 qui impose l'obligation d'un motif réel et sérieux dans la rupture des contrats à durée indéterminée et qui, par là même, fixe un point de repère par rapport auquel on pourra définir des contrats qui sont dits atypiques, intérim d'une part, hein, avec une loi discrète de 72, et puis CDD d'autre part, dans les années 78-83. Alors, des dynamiques importantes qui m'ont conduit à oublier mon joli PowerPoint en évoquant les débats devant la Société d'études législatives. Voilà Alexandre Millerand, dont vous voyez un portrait. Le métallurgiste est, en 1935, la manière dont des syndicalistes présentent la revendication d'un contrat collectif, d'une part, la revendication de comité d'usine et d'une représentation de la collectivité de travail dans l'usine d'autre part, et puis cette grande transformation de l'employeur, alors que j'ai symbolisé sous la figure de ce TGV Alstom arrivant à Wall Street au moment de l'introduction de l'entreprise en bourse, mais donc une situation qui nous conduit à considérer ces très grandes entreprises créées dans les années 60 comme étant des éléments importants dans l'analyse des évolutions de l'emploi qui se trouve malgré tout heurté de plein fouet par l'émergence du chômage, un chômage qui est attendu à la fin des années 60. Hein, on a une croissance continue du chômage dans le sillage de ces grandes restructurations. Et on a une projection de l'INSEE qui permet de s'attendre à un chômage de l'ordre de 600 000 personnes en 67, ce qui crée d'ailleurs un profond charivari au sein du commissariat général du plan, qui implique une révision des calculs, mais qui conduit aussi à des débats sur la manière dont les comités d'entreprise pourraient se saisir plus profondément de ces questions d'emploi. Hein, on a un accord sur la sécurité de l'emploi signé en 69 qui vise précisément à organiser la participation des élus du personnel aux restructurations, à leur encadrement, à la proposition d'alternatives au licenciement. Et puis on a ce chômage qui intervient de manière massive à partir de la crise de 73 et qui est pris comme la base de politique de l'emploi, puisque ce chômage implique d'accélérer la rotation des chômeurs, hein, sans que l'on s'interroge véritablement sur l'origine de ces chômeurs, mais avec l'idée de les propulser vers autre chose. Donc on a là ces politiques de l'emploi qui émergent dans les années 70, qui visent à alléger le coût du travail, notamment par allègement des charges sociales, des cotisations sociales, mais aussi avec en parallèle, dans un chômage qui dure, le développement d'un emploi que l'on qualifie de précaire, hein, sous la figure de contrat atypique, et avec un déplacement, disons, des débats non plus sur l'accompagnement des chômeurs, mais sur le droit du travail lui-même comme obstacle à un développement du travail comme inadéquat, comme désuet par rapport aux évolutions économiques. Et donc une situation où l'on imagine, et c'est le cas notamment de Robert Castel dans un ouvrage qui fait date à l'époque qui s'appelle « Les métamorphoses de la question sociale », où l'on imagine que le contrat à durée indéterminée, que l'emploi stable, l'emploi à vie, sont des choses qui sont amenées à disparaître de manière inéluctable dans l'avenir. Alors, ça se comprend dans le contexte de l'époque, parce qu'on voit une montée de ces contrats atypiques, mais dans le même temps, c'est une chose qui, avec le recul, ne s'est pas réalisée. Hein. Et pour moi, c'est un constat important à faire, c'est-à-dire que on a on a un droit du travail qui reste vivant dans la mesure où la population active s'accroît, où le salariat au sein de la population active se développe, mais où le CDI reste une référence pour plus de 70% de la population active, chômeurs compris, et où on voit finalement que ce CDI, et là c'est un traitement que j'ai fait de l'enquête emploi de 2004 à 2014, où l'on voit que le CDI est dans une position très faible pour les jeunes de 18 ans, mais que progressivement il devient la norme de référence vers l'âge de 25-28 ans, hein, jusqu'à un âge de 58-60 ans. Donc une situation où la recherche d'un CDI est quelque chose d'important, et où on voit également, alors je ne sais pas si j'ai mis le graphique, où on voit également une croissance ici de l'ancienneté avec l'âge, hein, c'est-à-dire que les salariés de plus de 10 ans d'ancienneté, j'ai essayé de l'approximer de cette manière-là, sont de plus en plus fréquents à mesure que l'âge croît. Donc, une croissance de l'ancienneté avec l'âge, une recherche du CDI, et donc finalement une hypothèse qui, à mon avis, est importante et de nature à réfuter la vision d'une remise en cause de l'emploi stable. Cette hypothèse, c'est que l'emploi stable est une référence pour la population active. C'est une référence qui se traduit pour les plus jeunes par un parcours qui est parsemé de missions d'intérim, de périodes de chômage, de contrats à durée déterminée, mais qui aboutit à un contrat à durée indéterminée dont la perte devient ensuite quelque chose qui prend une dimension de plus en plus catastrophique avec l'âge. Et donc, une dimension dans laquelle, il me semble, la précarité ne s'apprécie pas simplement à l'aune de la part des contrats atypiques, mais elle s'apprécie au regard de la menace qui pèse sur l'emploi dans un contexte où l'emploi stable est important. Alors, cette présence importante de l'emploi stable dans la population active et donc dans la société, c'est une dynamique qui me paraît importante pour comprendre l'existence d'un attachement des travailleurs à leur entreprise, et donc pour comprendre que la dynamique de restructuration permanente que connaissent aujourd'hui les entreprises est une dynamique qui naturellement est mal vécue par les travailleurs. Elle est mal vécue non pas par un attachement traditionnaliste à leur travail, elle est mal vécue parce que elle est erratique, et puis parce qu'elle menace l'emploi. Hein, parce qu'elle conduit à des destructions d'emplois qui sont très importantes et qui peuvent être considérées aussi comme des sources de chômage. Hein. Donc une situation qui accompagne, me semble-t-il, une évolution des entreprises, de ces fameux champions nationaux, vers des formes nouvelles, hein, au terme des nationalisations de 1981, avec les privatisations qui sont intervenues par la suite, et avec l'introduction en bourse dans un contexte de libéralisation des marchés financiers qui s'organisent à partir des années 80. Hein, et donc, le symbole me semble ici Alstom arrivant à Wall Street. On pourrait évoquer aussi le cas de Alcatel, hein, un des fleurons de l'industrie française, héritier de la Compagnie Générale d'Électricité, qui, sous l'impulsion des marchés financiers et de son PDG, Serge Tchuruk, s'engage dans l'idée d'une entreprise sans usine et qui finalement termine en 2014, me semble-t-il, par une entreprise sans entreprise, puisque Alcatel est racheté par Nokia, hein, et que seul subsistent quelques unités de recherche et de développement, hein, le reste étant confié à la sous-traitance. C'est donc une situation dans laquelle l'attachement à l'entreprise des travailleurs s'accompagne d'une mobilisation à l'égard des restructurations que j'ai eu l'occasion d'observer notamment dans cet ouvrage dirigé avec Annette Jobert, mais où dans le même temps se pose le problème de ce que c'est qu'une entreprise, hein, du sens d'une entreprise où l'on a, sous l'effet des marchés financiers, des dynamiques de recentrage de ces entreprises sur le cœur de métier, c'est-à-dire en fait des dynamiques d'éclatement de ces entreprises en centre de profit qui rendent difficile la question de savoir ce que réalise véritablement une entreprise qui va se trouver dispersée en une multitude de sous-traitants, hein, à partir d'un centre qui représenterait peut-être un ensemble de donneurs d'ordre, hein, avec de nombreuses grandes entreprises parmi les cotées au CAC 40 qui pourraient apparaître comme des donneurs d'ordre impulsant l'activité de PME. Hein. On pense par exemple à Sanofi qui ferme ses laboratoires de recherche pour développer des start-up dans le domaine des biotechnologies, hein, qui permet comme ça d'externaliser en quelque sorte le risque de la recherche. Hein, on pense à des entreprises de l'aéronautique comme Airbus qui développe une sous-traitance allant jusque au bureau d'études. Donc une situation où il me semble cette pression sur l'emploi, cette précarité que vivent les travailleurs dans leur travail, eh bien c'est une dérivée d'une dimension plus profonde, c'est-à-dire une crise de l'entreprise dont le périmètre s'obscurcit et dans lequel finalement on a un développement de la sous-traitance qui partitionne les collectivités de travail, hein, selon une logique qu'on pourrait qualifier de managérialo-financière, en quelque sorte, mais qui perd de vue une cohérence productive. Hein, donc une dynamique de crise de l'entreprise qui me conduit, finalement, pour conclure, et peut-être en ayant été un peu long, j'en sais rien, oui, peut-être. Non, qui me conduit pour conclure à souligner ce paradoxe dans lequel nous vivons, c'est-à-dire ce paradoxe où, d'une société où le travail est une dimension centrale dans la vie de chacun, et notamment de plus en plus aujourd'hui dans une société où la population active s'accroît, où le développement de l'activité féminine est un fait social majeur qui ne s'est pas démenti avec la crise, et donc une situation où finalement le travail est une préoccupation qui se généralise et où l'attente d'un emploi stable demeure une réalité palpable, une attente raisonnable qui se heurte finalement à une situation de crise de l'entreprise, une situation dans laquelle se perd en quelque sorte la finalité de cette entreprise, hein, plutôt orientée vers le service de l'actionnaire que vers l'activité productive, et qui conduit en un sens à avoir un recul peut-être critique à l'égard d'une forme d'hystérie réformatrice en matière de droit du travail, hein, c'est-à-dire une hystérie réformatrice qui vise à restaurer la compétitivité des entreprises en supposant que cette compétitivité c'est le résultat de la baisse des salaires, hein, et de la dégradation des conditions de travail, et puis qui vise également à sécuriser les parcours individuels des travailleurs en oubliant l'importance de la dimension collective du travail, de sa cohérence, et peut-être en rendant importante une reconnaissance plus approfondie de la collectivité de travail sous la figure d'un comité d'entreprise au pouvoir élargi, et peut-être sous la figure d'une capacité de regroupement d'entreprises dans des totalités cohérentes que permettent d'imaginer des leviers du droit du travail tels que l'unité économique et sociale, et donc en essayant de dépasser ce fractionnement capitaliste de l'entreprise pour aller vers une construction productive un peu plus cohérente, évoquant à certains égards la situation allemande dans l'organisation d'une codétermination où les conseils d'entreprise ont un pouvoir décisionnaire non seulement en matière d'investissement mais aussi en matière d'emploi. Voilà, je vous remercie. Et j'espère que je n'ai pas été trop long et que je n'ai pas fait dormir tout le monde.